Nous sommes Daniel et Philibert, les fondateurs de The Bouffe, agence de marketing et communication spécialisée dans le business de la bouffe, de la terre à l'assiette.
Nous sommes tous les deux passionnés par la bonne bouffe. Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin nature et adore cuisiner.
Philibert est savoyard, un ambassadeur de son terroir. Notre activité nous amène à rencontrer et accompagner les dirigeants et entrepreneurs du business de la bouffe.
Ainsi, nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui grâce à ce podcast va finir par connaître tous les plus grands boulangers du monde. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Philibert. C'est vrai qu'après nos épisodes avec Eric Kayser, Benoît Castel et Alain Coumont, les fondateurs du Pain Quotidien, ça commence à le faire. Mais bon, la boulangerie c'est un univers immense, il reste encore énormément de talents à rencontrer.
Et oui, aujourd'hui Daniel, on va s'intéresser à un autre grand nom de la boulangerie en France. Il s'agit d'une histoire de famille dont notre invité est issu de la troisième génération. Avant elle, son père Lionel et son grand-père Pierre ont créé et développé une marque iconique de pain connue dans le monde entier, un pain qui nourrit et qui se garde, comme ils aimaient le dire. Leur pain signature est une célèbre miche ronde de 1,9 kg, c'est précis. On y reviendra, à la mie brune et à la croûte épaisse, signée du P de Poilane. Nous sommes aujourd'hui avec Apollonia Poilane. Bonjour Apollonia.
Bonjour Philibert. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors Apollonia, dans cet épisode, on va prendre le temps de te connaître, de comprendre l'histoire de ta famille et ta vision de la boulangerie aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement?
Alors, je m'appelle Apollonia Poilane, je suis boulangère et je dirige la maison Poilane, qui est une boulangerie depuis 1932 à Saint-Germain-des-Prés.
Ouais.
On fait du pain, on fait des pâtisseries boulangères et on fait des biscuits.
Mmh.
On sert nos clients à Paris avec nos propres adresses, mais aussi notre réseau de revendeurs et en temps un peu plus usuel, des restaurateurs également.
Ouais.
On est également présent à Londres depuis une vingtaine d'années, où de la même façon qu'à Paris, on a à la fois une boutique et on sert des clients revendeurs-restaurateurs, on a cette double casquette.
Et alors, tu t'as tout dit, c'est bon. Non, on va détailler tout ça.
On va revenir sur Londres, mais on a une question rituelle dans ces podcasts qui est pourquoi la bouffe, et dans ton cas, c'est pourquoi les pains?
Alors, pourquoi la bouffe, pourquoi le pain? Pas parce que ça nourrit. Pour moi, le pain a cette particularité d'être, alors je reprends vraiment les mots de mon père, mais une nourriture première, un aliment premier, qui permet, élémentaire, qui permet vraiment de nourrir la base de nos régimes alimentaires, de notre alimentation. Bon, je me répète un peu, mais tout ça pour dire la nourriture parce que ça nourrit le corps et parce que ça nourrit le corps, ça nourrit aussi l'esprit.
Ouais. Et je pense que dans ton cas, c'est surtout parce que c'est une histoire des familles, en fait.
Évidemment.
Des générations.
C'est
difficile de sortir de ça.
T'es un peu tombé dedans.
Alors oui, et d'ailleurs, mes parents avaient beaucoup d'humour. Donc, ils avaient transformé un panier à pain en berceau.
Ah.
J'ai lu ça, je me suis dit c'est une légende.
Non,
c'est
pas vrai. C'est absolument pas une légende.
C'est vrai?
Non,
T'as des photos?
J'ai des photos.
Ah, bah.
Ça a même été, on l'a même prêté à des copains, donc ça devait être suffisamment cool comme objet que ça a fait des émules. Mais surtout, la boulangerie, c'était mon terrain de jeu, mon bac à sable. Donc j'ai appris à compter à la caisse, j'ai appris à toucher la pâte au fournil. Et c'est toutes ces expériences-là qui ont fait que lorsque je me suis trouvée à 18 ans à la tête de Poilane, il y avait beaucoup d'évidence à prendre la suite de mes parents, bien que ça se fasse beaucoup plus tôt que prévu.
Justement, ça, on y reviendra. Malheureusement, les conditions difficiles qui ont fait que tu as dû prendre la direction de la maison. Mais quand est-ce que tu as pris conscience que tu allais devenir boulangère? Ça date d'avant ou c'est à ce moment-là?
Non, c'est avant.
Ouais.
Mais tu as raison, c'est une très bonne question. Non, mais parce que finalement, quand on fait partie d'une entreprise familiale, il y a toujours ce souhait d'un parent de voir l'entreprise transmise.
Mais poids, c'est une pression presque, non? Ou pas?
Ça peut être une pression dans certains cas, mais pour moi, c'était vraiment une invitation. Mon papa avait été forcé de travailler dans l'entreprise familiale quand il avait 14 ans. Donc pour lui, il a dû vraiment comprendre le goût qu'il avait pour son métier. Et parce qu'il a trouvé le lien entre le pain et les choses, mon terme est volontairement vague parce que finalement le pain est relié à peu près tous les domaines de la connaissance, et ben, fort de cette expérience-là, fort de cette philosophie de vie à la fois dans sa vie de tous les jours comme dans son quotidien professionnel, il y a eu beaucoup dans notre éducation à moi et à ma sœur, cette ouverture sur ces univers-là est donc beaucoup d'évidence.
Ouais.
Pour moi, que je reprendrai la suite, comme pour ma sœur, c'était évident que non, c'était pas pour elle.
Tu l'as eu assez tôt, cette évidence, finalement.
Absolument.
Assez jeune.
Absolument.
Et tu te souviens du moment où tu as eu ce déclic? Alors, ou ça s'est fait progressivement?
Malheureusement, j'ai pas de moment déclic à vous raconter. Mais par contre... En CP, je savais que j'allais prendre la suite de mon père.
Déjà,
donc voilà.
Okay.
Donc c'est vraiment clair. Lointain, c'est assez clair et assez jeune.
Et justement, je pense que la particularité des Polan, c'est que c'est une entreprise familiale, en fait, qui traverse les générations. Et nous, ce qu'on aimerait peut-être commencer ces podcasts pour mieux comprendre l'histoire des Polan, est-ce que tu pourrais revenir sur les débuts de l'histoire avec ton grand-père pour que même nous et nos auditeurs puissent comprendre la beauté de cette histoire-là?
Alors, Poilane commence au 8 rue du Cherche-Midi. On est en 1932.
32.
1932, on est au cœur de Saint-Germain-des-Prés, un quartier où il y a des artisans, des artistes. On est dans un quartier qui est en pleine gentrification, on dirait aujourd'hui, et qui accueille mon grand-père, dont ça devient la première boulangerie.
Ouais. Lui, il est parisien, il est issu
Lui, il est issu de Normandie.
D'accord.
Il est issu de Normandie. Il est normand.
Normand, ouais, voilà. Non, c'est moi qui c'était ma question.
Non, c'est moi qui formule mal ma réponse, mais il est normand. Il a fait son petit tour de France de différents boulangers et puis il s'installe à cette adresse. Pour se distinguer de ses confrères, mais aussi parce que le quartier l'y encourage, il va faire du pain que lui a connu à la campagne en grandissant. Des grosses miches de pain qui sont faites au levain, qui ont un volume qui permettent de nourrir les gens, mais qui se gardent aussi. Parce que comme on a ce volume, que moi j'aime bien décrire comme une brassée de pain, on a le temps que l'air assèche la mie est plus long, puisqu'il y a beaucoup plus à traverser.
C'est déjà à peu près la taille de la miche poilane d'aujourd'hui?
C'est la miche d'aujourd'hui.
Ah, exactement. La miche poilane.
1932, il commence son levain et il fait ce pain qui est différent de ses confrères à une époque où, à Paris, on a envie de manger du pain blanc, parce que, contrairement au pain noir des campagnes, on a envie de manger plutôt des baguettes, des pains longs, des petits formats, parce que ça fait chic d'avoir quelque chose...
plus raffiné, ouais, c'est ça.
Absolument. Alors qu'en fait... paradoxalement, en termes nutritionnels, c'est moins riche.
Oui, c'est que je trouve, j'étais interrompu et je m'excuse, mais c'est que Philibert faisait la remarque au début, on a interviewé pas mal des boulangers, et même aujourd'hui, on voit une nouvelle génération des boulangers, et à chaque fois, la même chose qui remonte, c'est qu'on veut faire un pain comme on faisait avant.
Ouais.
Et même en 32, il y a ton grand-père qui voulait déjà faire un pain comme il avait mangé quand il était enfant.
Et même avant ça, parce qu'en fait, finalement, le pain ou le vin, ce qu'on appellerait un pain de campagne, une miche, bref, quel que soit le mot que vous utilisez, c'est le pain qui a nourri des générations d'Européens avant qu'on ait des pains qui sont beaucoup plus récents, comme la baguette notamment. Ouais.
Et la miche donc, qui faisait déjà à l'époque, c'est la même que celle que tu commercialises aujourd'hui?
Exactement.
J'imagine qu'elle a un peu évolué?
Non, tout était là.
D'accord.
Il commence son levain et il commence à construire son entreprise. Dans les années 70, il a un AVC. Et à ce moment-là, mon papa répond présent pour prendre sa suite. Il travaillait déjà dans le fournil depuis qu'il avait 14 ans. Et donc, du coup, il se retrouve projeté à la tête de l'entreprise et structure l'entreprise familiale, la boulangerie.
Il n'y a qu'une boulangerie à cette époque-là, quand ton père reprend. Il y a déjà d'autres boutiques.
Alors, à cette époque, il y a une boutique dans le 15e, boulevard de Grenelle.
D'accord.
Donc, mon grand-père cède la main de façon opérationnelle à mon papa. Mon père structure et développe l'entreprise, que ce soit notre réseau de revendeurs, restaurateurs de pain. Il ouvre Londres en 2000.
Ah, d'accord.
Et on a l'entreprise dont moi et ma sœur prenons la suite en 2002.
D'accord. Là, tu vas vite, mais on va revenir sur toutes
bien.
Les étapes.
Juste une petite question par rapport à l'époque où quand ton père il a repris la société, l'entreprise, elle avait déjà une taille importante. Ça restait quand même une toute petite entreprise.
Alors, Poilane reste une PME même en 2021.
Oui.
Et à l'époque, mon grand-père avait déjà acquis une petite réputation dans le quartier. Il faut se remettre dans le contexte post-guerre, Saint-Germain-des-Prés, avec les philosophes, les cafés, toutes les caveaux avec le jazz étaient un endroit pour voir et être vu, un lieu qui montait, un lieu qui vraiment avait vraiment qui est sa régénération. Et donc, du coup, mon grand-père a bénéficié de ça aussi. Et il s'est aussi distingué parce que il faisait un pain qui était différent de ce que la plupart de ses confrères faisaient.
À ce
et c'est à la fois sa marque de fabrique, sa singularité, mais c'est aussi ce qui explique notre particularité.
Bien sûr.
Et quand ton père donc reprend dans les années 70, quelle était sa vision? Il voulait c'est lui qui a voulu développer la marque, développer la distribution, développer les points de vente. Quel état d'esprit il était à ce moment-là?
Pour mon papa, lorsqu'il prend la suite de mon grand-père, c'est vraiment de structurer une entreprise familiale. Ouais. Et il arrive à une époque où il y a une appétence, un besoin et une envie de manger son type de pain. C'est aussi une époque où un peu avant, déjà à l'époque de mon grand-père, mais les cafés charbon deviennent bistrot bar tabac. Wow. Donc en fait, il y a vraiment une confluence entre et une adéquation entre ce que mon grand-père et ensuite mon papa proposaient et le besoin de ces lieux pour proposer des tartines, pour proposer un sandwich, pour proposer un croque-monsieur. Et d'ailleurs, s'il y a autant de cafés bistrot qui proposent des croques poilanes ou des sandwichs faits avec notre pain, c'est l'héritage de cette époque-là.
Ouais, c'est lui qui a montré qu'on pouvait utiliser cet usage pour consommer les pains poilanes.
Voilà, mais c'est aussi dans les années 80 et 90, Patrick Derderian qui monte la chaîne Au Poivrier, et donc toute la génération des tartines. Et donc c'est toutes ces... qui devient en gros la nouvelle vague de tous ces formats de, on va dire, restauration rapide, en tout cas de restauration sur le pouce, et qui co-construit l'histoire de Poilane.
D'accord, donc il fait évoluer l'offre vers un peu plus de restauration, de consommation sur place ou emportée. Est-ce qu'il fait évoluer aussi la façon de faire le pain, ou ça reste encore dans le respect de ce que faisait son père?
Donc, mon père développe ses revendeurs ou restaurateurs qui utilisent son pain, et il se retrouve très vite confronté à ce problème classique d'entrepreneur. Comment, ce carrefour où on se dit, comment est-ce que je produis plus sans compromettre la qualité?
La qualité, bien sûr. Ouais.
Et là, sa réponse avec ma maman, il y a une quarantaine d'années, était assez brillante, mais surtout aussi nourrie d'une matière qui le permettait. C'est qu'ils se sont dit, on va pas construire une usine, on ne va pas construire une chaîne de fabrication, on va construire une manufacture.
D'accord.
Ils ont choisi jusqu'au mot du lieu pour vraiment refléter que c'était la main de l'homme qui façonne les miches de pain. Et encore aujourd'hui, si vous allez rue du Cherche-Midi au sous-sol, dans le 15e, dans notre adresse du 19e, ou à la manufacture, le pain est fait de la même façon. C'est un boulanger qui a la responsabilité de l'ensemble de la fabrication. On tronque pas en fait les différents métiers pour que chaque boulanger est vraiment responsable de sa
niche, ou du pain qui va sortir du four.
Exactement.
Du fournil.
Et il fabrique de A à Z son
Donc chaque
son
boutique
pain.
Est indépendante aujourd'hui en termes des productions, en fait.
Exactement. Et on produit sur place, ce qui nous permet de fabriquer tout au long de la journée et donc de répondre à la demande. Et c'est vraiment cette conversation et cet échange entre notre équipe de vente et notre équipe de production pour vraiment arriver...
Oui, c'est une vraie activité.
Au besoin, pas être dans la surproduction en espérant qu'on arrive à la vendre.
Et c'est ce que tu dis, donc du coup, pour répondre à la demande des revendeurs, certes, toutes les boutiques ont leur fournil, mais pour répondre à cette demande, c'est l'idée de
au début
construire
des années 80, la manufacture.
Manufacture des biens.
Comment elle se configure, comment il l'imagine à ce moment-là?
Donc, on est au début des années 80, il a besoin d'avoir un lieu où on peut fabriquer plus de pain, on a besoin donc de plus de fournils. Ma maman est architecte, et donc ils dessinent ensemble un lieu qui vraiment rassemblent leurs talents. C'est un lieu en forme de rond, au centre duquel il y a notre stockage de bois, parce que tous nos pains sont cuits dans des fours à bois. C'est vrai pour nos biscuits et nos pâtisseries aussi.
Toujours
notre production est fabriquée.
Tout est fait dans les fours à bois.
À la fois dans les boutiques en ville et à la manufacture.
Exactement, sont cuits au four à bois. Donc au centre de la manufacture, on a le stockage de bois. Le cercle de bois dans lequel, moi quand j'étais petite, passais notre temps avec ma sœur à trouver les petits morceaux de bois qui ont une forme spéciale.
D'accord,
bref. Autour de ce cercle à bois, on a deux demi-couronnes qui rassemblent des fournils comme plein d'unités de travail, comme plein enfin comme autant, donc on a 12 fours et donc 12 postes de travail possibles pour les boulangers, ce qui nous permet de monter en puissance selon la saison ou de redescendre si c'est pas un jour de production plein. Et donc ce lieu-là nous permet d'avoir, à la façon d'un circuit en dérivation, d'avoir une production qui est entièrement manufacturée, entièrement artisanale, où chaque boulanger est responsable de sa fabrication du levain jusqu'à la sortie du four, et ce qui nous permet vraiment d'avoir la même qualité de pain rue du Cherche-Midi qu'à la sortie du four à la manufacture à Bièvre.
Donc cet outil de production, il décide de le construire avec l'aide de ta mère en 84, et c'est celui aujourd'hui qui permet de produire les besoins du marché. Avec
c'est celui à partir duquel on livre Paris et sa région avec nos camions, et à partir duquel part le pain qui va être livré en Europe ou à travers le monde selon les commandes.
Justement, c'est un point qu'on voulait aussi comprendre. C'est à l'époque de ton papa qu'il démarre la distribution à l'international.
Exactement.
On se posait la question, parce que tu as évoqué ta maman, elle était d'origine américaine.
Absolument.
Est-ce que ça jouait dans l'envie de s'internationaliser ?
Absolument. Non, absolument. En fait, il y a deux choses. On a Saint-Germain-des-Prés qui est un lieu qui attire les étrangers, les Américains, les Japonais, bon bref. On a une époque où la gastronomie française s'exporte. Les chefs, Paul Bocuse, pour ne citer que lui là maintenant tout de suite, mais c'était...
Le plus emblématique.
C'est Joël Robuchon. Tous ces chefs qui ouvrent à l'étranger à cette époque-là représentent en fait voilà, une logique à une époque donnée. Mon père est dans la lignée de ce mouvement-là en commençant à exporter dès cette époque-là. Les transports le permettent et effectivement, le fait que ma maman soit américaine, ça facilite quand même grandement tout ce mouvement-là.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'elle a envie de pousser la marque vers ces marchés-là. Les premiers marchés, on y reviendra peut-être un peu après, mais c'est en effet du coup le marché américain.
Oui, alors aujourd'hui, c'est aussi le marché anglais puisqu'on est présent à Londres depuis 20 ans. Mais nos grands marchés internationaux, c'est les États-Unis et le Japon, en dehors des endroits où on est physiquement présent. L'Allemagne aussi.
Ouais. Donc, quand ton père reprend tout ça, il développe la production, il développe l'offre, il en fait une marque qui devient encore plus notoire. J'ai lu une anecdote d'ailleurs sur une collaboration, j'aimerais bien que nous en disions plus avec Salvador Dali. C'est pour ça qu'à un moment, vous étiez quand même.
Alors,
et tu pourrais nous en dire plus.
Complètement. Alors, dans Saint-Germain-des-Prés, post-guerre, mais même un peu avant ça, il y avait non seulement des artistes, des artisans, mais il y avait aussi des artistes qui ne pouvaient plus tellement payer leur loyer, ou en tout cas qui, par copinage avec mon grand-père, avaient commencé à troquer du pain contre un tableau.
Ah, pas mal ça.
Et héritier de cette époque-là, mon père rencontre Salvador Dali à la fin des années 60, et les deux commencent à nouer une relation où l'un demande à l'autre de faire un cadre en pain.
Cadre en pain
et d'autres un cadre
de peinture,
voilà, par exemple,
une toile en pain,
et petit à petit commence à demander des choses beaucoup plus ambitieuses jusqu'au jour où il demande à mon père de faire une chambre à coucher en pain.
Une chambre à coucher en pain
parce qu'il voulait savoir très sérieusement s'il avait des souris dans sa chambre.
D'accord.
Donc il y avait un lit, une descente de lit, une commode, un chandelier et tout ce mobilier là à meubler sa chambre sa chambre à Paris.
Donc,
et a été livré par mon père.
Ton père relève le défi, hein, c'est ça qu'il faut
noter. Mon père relève le défi.
On sait que Salvador Dali était peut-être un petit peu barré par certains sujets, c'est pour ça qu'on l'appréciait, mais après lui, ton père a joué le jeu, donc c'est intéressant.
Complètement. Ouais. Et il a essayé aussi de faire une télé, ça a un peu moins bien marché.
Ouais.
Mais c'est mon père, ce qu'il aimait, c'était le regard de l'artiste surréaliste sur le pain, non seulement comme une matière qui nourrit le corps, mais qui nourrit aussi l'esprit. Qui donne à réfléchir et qui donne à poser la question de la. Enfin, c'est aussi un matériau artistique et qui donne matière à réflexion plus globalement.
Super. Dans l'histoire de famille, on parlera ensuite après de ton rôle. Il y a une parenthèse un peu floue. C'est l'histoire de ton oncle, Max Poilane, qui, on sait, a développé une autre marque. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé très rapidement?
Bien sûr. Mon grand-père a eu 3 enfants.
Ouais.
Il a formé ses 2 garçons à la boulangerie et Max a fait son entreprise de son côté.
Ouais.
Ça fait plus de 50 ans. C'est 2 entreprises qui aujourd'hui sont totalement séparés.
C'est pas du tout la même approche.
C'est plus du tout les mêmes entreprises.
Mais les deux marques coexistent parce qu'à priori, elles portent les noms de leurs fondateurs.
Exactement.
D'accord.
Ça ne rend pas la confusion pour les consommateurs de se dire...
Absolument, oui, ça peut.
Ça doit être pour vous un problème, pour les deux, je suppose, de gérer cette situation. Quoi.
Ça fait partie du quotidien d'une entreprise et de métier où un homonyme peut prêter à la confusion.
Bien sûr, sur la marque et permettre la coexistence des deux marques.
C'est clair.
On peut parler maintenant du coup de la reprise. Alors évidemment, comme on l'a sous-entendu, le 31 octobre 2002, tu vis un drame atroce. Tes parents disparaissent dans un accident d'hélicoptère au large de Cancale en Bretagne. On ose imaginer la douleur et le désarroi. Toi, à ce moment-là, t'en étais où de ton parcours et de ta réflexion quand malheureusement ce drame arrive ?
J'ai mon bac en juin 2002. Et à ce moment-là, je reçois aussi une proposition d'aller à l'université si je prends une année off. Ce que je décide de faire.
Ouais.
Donc, à l'automne 2002, je travaille au Fournil. Et
en France,
à Paris.
En France, à Paris, Poilane, au 8 rue du Cherche
Midi. Dans l'entreprise familiale. Ouais.
Et du jour au lendemain, au lieu de descendre au Fournil, où j'allais chaque matin, je suis montée dans le bureau de mon papa pour prendre la suite de mon père, parce que j'ai toujours su que j'allais prendre
que t'allais faire,
suite.
Ce que tu nous disais tout à l'heure. Ouais.
C'est juste fait
ça
plutôt
accélérer
que
les choses.
Exactement.
Quoi. Énormément. Et du coup, comment ça se passe? Parce que si tu as une année off, mais tu allais reprendre l'école après et tu n'es pas en France, en fait.
Alors, voilà, c'est ça. Je suis donc début novembre 2002. J'ai 10 mois devant moi pour décider de ce que je fais de mon admission à Harvard.
Tu étais déjà admise ouais.
Absolument.
C'est pas n'importe quelle université en plus, hein, c'est Harvard dont on parle.
Et
bravo.
Ce que j'essaie, merci. et du coup, mon propos, c'est de me dire, est-ce que je pourrais arriver à faire les deux ? Et j'ai tenté et ça a marché.
Et ça
a duré combien de temps ?
4 ans. Donc pendant 4 ans, j'ai fait des allers-retours.
Oui. Quoi, une fois par mois, une fois.
Oui, une fois toutes les entre 4 et 6 semaines.
D'accord.
Je revenais pour quelques jours. Les moyens de technologie nous ont quand même énormément aidés. Il y avait certains cours qui étaient filmés.
Pas Zoom encore à l'époque.
Il y avait pas Zoom, j'étais aussi assez transparente avec mes chargés de TD pour expliquer mon absence.
Bien sûr.
M'organiser et voilà, et ça a été au début évidemment un peu d'organisation, un peu d'ajustement entre ce que j'avais imaginé et puis la réalité de terrain.
Bien sûr.
Et puis au bout de 4 ans, c'était une machine qui était un petit peu mieux huilée et puis et j'ai eu mon diplôme en juin 2007.
Félicitations.
Tu avais quel âge quand tu as repris Paulane?
Alors j'avais 18 ans quand j'ai pris la suite de mes parents. Et donc, j'avais
déjà sur place, ça aurait été très difficile. À distance, je ne veux même pas imaginer. Quoi. Ça rajoutait une couche de complexité.
Oui, et en même temps, parce qu'il y avait un décalage horaire, ça m'a permis de pouvoir avoir des journées un petit peu plus longues.
Bien sûr, quand tu t'es levé tôt. Ouais.
Par contre, tu dormais moins, forcément.
Oui,
mais, et
clairement.
Du coup, pour que ça marche, j'imagine que tu as pu t'appuyer sur des collaborateurs qui étaient certainement déjà très opérationnels.
Absolument.
Et tes parents
c'est
avaient dû très
ça.
Bien s'entourer, faire en sorte qu'il y ait des...
Si j'ai pu prendre la suite de mes parents... À 18 ans, avec tout le bagage d'avoir vu mon père travailler dans l'entreprise, d'avoir maintes fois échangé avec lui, d'avoir traîné vraiment dans son entourage pour comprendre comment l'entreprise fonctionnait, je n'avais pas d'expérience professionnelle à la tête d'une entreprise.
Oui, de management, c'est ça.
Mais par contre, j'avais tout ce façonnage-là. J'avais les collaborateurs de mes parents, une bonne équipe, des amis de mes parents... qui ont été des soutiens.
Mmh.
Et donc, c'est tout cet écosystème-là qui m'a permis, pendant d'abord, de prendre la suite de mes parents, pendant 4 ans, de faire des allers-retours avec Boston.
Mmh.
Et puis, tout simplement, aujourd'hui, un peu plus de 18 ans après le décès de mes parents, d'être encore à la tête de Poilane aujourd'hui.
Bravo. On a bien compris donc, que ta mère, elle était américaine et que je suppose, tu as grandi avec les deux langues. C'est ça aussi qui t'a permis de faire Harvard, je suppose, à l'époque. Et on a regardé des vidéos sur YouTube. Et quand je t'ai vu parler anglais, j'ai presque l'impression que tu es plus à l'aise en anglais qu'en français, en fait, parce que tu parles tellement bien. Là, c'est comme une vraie américaine.
Ça l'a fait rêver, il m'en parle depuis 2 jours.
Ouais. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que nos auditeurs ils puissent t'écouter parler anglais, si tu es d'accord.
Ok.
Do you mind if we switch to English for just one second for a couple of questions?
Of course, we can switch to English.
That's lovely. So, can you tell us a bit more about this two-language thing that you have with this double French-American culture? How does it influence who you are today?
So growing up, I would only speak English to my mother and only speak French to my father. And I think that was a fantastic way of learning two languages at once. I suppose it offers also the opportunity to really think in different ways and develop your ability and ultimately just your, you know, it's just like gymnastics. You learn how to create and develop your moves and you just have a wider range because you have more skills, you have more vocabulary. Mm-hmm. But I think that beyond growing up, I think my college years, which are very formative years in you know, as adults, mm-hmm. definitely helped to shape my thoughts, shape my words, develop my vocabulary. And yeah, I think
because you always say that you're very, very open to the world. I mean, we were listening to a few of your interviews. Do you think that this double culture has
for sure.
has contributed to that?
For me, I think that being the kid of two cultures commends an openness. I have two identities. I have my French identity and I have my American identity. And I can't think of it any other way.
Bah, c'était un plaisir de discuter avec la version américaine d'Apollonia.
On s'est cru dans un entretien d'embauche. Hop, tu switches en anglais pour... Bravo, Daniel.
Vous vérifiez, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai le bon niveau d'anglais?
Ouais, c'est bien.
Je pense que ça passe. Ok,
T'es crédible pour lancer du business à l'international.
Et surtout, moi, ce que je voulais, c'est vraiment que nos auditeurs puissent écouter, parce que je ne pense pas que tout le monde a eu l'occasion de t'écouter parler anglais. Et moi, je trouve toujours impressionnant de voir des gens bilingues qui peuvent switcher d'une langue à l'autre sans aucun accent. On va parler du produit.
J'aimerais qu'on revienne à l'offre, aux produits, parce que c'est un sujet qui nous passionne, de parler de savoir-faire avec des boulangers, surtout comme on disait en off avant que tu arrives, vous avez tous des approches différentes, des implications différentes sur le produit. Toi, comment tu définirais les pains poilanes? Quel est le style poilane aujourd'hui?
Alors, notre métier, je le conçois vraiment comme ce carrefour entre la céréale, la graine, des farines de céréales, et la fermentation.
Ouais.
La magie de la fermentation qui métamorphose, qui transforme le grain en pain.
Alors ça, c'est important ce point-là, parce que c'est un sujet qu'on évoque moins avec les boulangers, la fermentation. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de la fermentation dans la transformation du grain et ensuite la farine?
La fermentation, c'est ce qui va faire la différence entre une crêpe et un pain.
Une
crêpe et un pain levé.
C'est-à-dire?
Eh bien, une crêpe, c'est tout plat, et un pain levé, bon, c'est un peu plus épais. Alors, je caricature, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que si on regarde nos civilisations, le grain, c'est quelque chose qui va rassembler des hommes pour faire un travail en commun qui va derrière, du champ jusqu'à l'assiette, nous nourrir. Et ce qui est fascinant, c'est de voir le parallèle entre la fabrication du pain, tout son vocabulaire qui rappelle et fait un parallèle assez évident entre la maternité ou bon, des termes beaucoup plus sexuels, surtout que dans l'univers de la boulangerie professionnelle, mais qui montrent à quel point, en fait, la destinée des hommes et la destinée et l'évolution du pain sont intimement liés. Ce que je veux dire, c'est deux métiers qui... Enfin, c'est notre condition d'homme est nourrie par le pain et le pain qu'on mange nourrit qui l'on est.
Et c'est une approche intéressante. Le pain, je suis beaucoup plus pragmatique, hein, désolé, la transition est difficile. Le type de pain...
Revenons-en.
Au pain, non, très bien. Non, le type de pain, ce que je disais dans des descriptifs, que le pain poilane, c'est un pain bis. Je n'avais jamais entendu ce terme. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un pain classique, un pain bis, et la différence avec le pain complet?
Ouais, alors je vais même revenir un tout petit peu en arrière,
vas-y.
Au risque de paraître complètement didactique. Le pain, c'est fait avec...
On adore ça.
Le pain, c'est fait avec quatre ingrédients. Il nous faut de l'eau, de la farine, du sel et
du levain.
Une levure. Quelque chose qui va permettre à la pâte de lever. D'accord. Donc, nous, on utilise de la farine de blé, on utilise de la farine de seigle et on utilise de la farine de maïs. On a trois familles de céréales que l'on travaille. Et à chaque fois, c'est 100% de cette farine-là.
D'accord, il n'y a pas d'assemblage.
Donc... Notre farine, elle est moulue sur meule de pierre, ce qui permet au grain de vraiment garder l'ensemble de tout ce qu'il a dedans. C'est pas un réassemblage derrière, c'est vraiment, on prend le grain, il y a une meule qui l'écrase, et on récupère la farine. Et on récupère à peu près ce qu'on appelle, nous, une type 80. Donc on va récupérer la plupart de ce grain. On en élimine un petit peu, donc c'est pas une farine complète, mais en gros, quand vous écrasez un grain de blé ou une graine de céréales, vous pouvez récupérer soit très peu et vous allez avoir vraiment la farine la plus pure, la plus blanche, vraiment l'amidon, le sucre.
Donc ça, c'est la farine blanche.
Ça va être la farine blanche, la farine
de pâtisserie. On a enlevé toutes les enveloppes, tout, on garde que le
en gros, cœur, c'est l'amidon. Ça, exactement. Et ou alors, on garde un maximum jusqu'à le grain complet.
Complet. On a
dans
tout.
Ces cas-là, on a tout.
Bis, ça veut dire que c'est un tri intermédiaire. C'est,
exactement.
Donc, et vous travaillez uniquement chez Poilane, enfin, c'est ce type de farine.
Exactement.
D'accord.
Sur la farine de
pour
blé.
Faire des pains.
Et attention, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais. C'est vraiment une graine que j'aimerais planter, bon, à la fois dans vos auprès de vos auditeurs, mais aussi plus généralement dans les consciences, c'est que quand on dit farine, c'est une façon générique de dire un écrasé d'une céréale. Donc quand on dit farine, si on précise la céréale, là on devient un peu plus précis et on apporte une information supplémentaire. Moi par exemple, on a des pains de blé, de seigle et de maïs, et on a différents types de farine pour notre farine de seigle, par exemple. Ouais. C'est une T170, ce qui n'a rien à voir avec la T80.
Mmh. Là, tu parlais de meule de pierre, oui. Pardon. Ça, c'est dans le cahier des charges de Poilane, c'est une pratique qui est courante dans la profession, au contraire, non, la majorité des farines
courant.
Sont...
C'est pas très courant. En fait... La meule de pierre, bon, on a commencé avec la meule de pierre et nous, on trouve que la meule de pierre permet vraiment de garder l'huile qu'il y a naturellement dans le grain. Donc, c'est un plus. Mmh. Et c'est devenu, de ce qui était au temps de mon grand-père, une conversation avec le meunier, est devenu notre cahier des charges. Mmh. Et effectivement, c'est un choix aujourd'hui qui fait partie de notre marque de fabrique.
D'accord.
La meule de pierre, c'est une technique pour écraser le grain. On peut utiliser aussi des cylindres pour écraser le grain. Et puis entre les deux, évidemment, il y a toute une famille de façons de fonctionner. Mais c'est un peu comme quand on parle de levure versus de levain.
Mmh. Mais pour ces sources, en fait, pour les matières, donc c'est vous qui transformez en fait les grains en farine.
Non, ça c'est le métier du meunier.
Du moulin. Voilà, d'accord, on est d'accord.
Vous, votre métier, qu'est-ce que commence à la farine.
Exactement.
D'accord.
Donc nous, on
récupère vous récupérez déjà
une farine de céréales.
D'accord, très bien, ouais.
Auquel on ajoute l'eau, la farine, pardon, l'eau, le sel et le levain, donc le morceau de pâte de la fournée précédente qui sert à ensemencer la fournée suivante.
Ouais, mettre, ouais.
Et là, on a la pâte à pain qui va servir à la prochaine fournée.
Super. Quand on fait référence au pain Poilane, en fait, on dit toujours qu'il y a une saveur acidulée.
Ouais.
Et c'est grâce au levain utilisé dans la cuisse, dans les pains. Et justement, moi, ce que j'aimerais comprendre, qu'est-ce qu'il y a dans les levains qui apporte cette acidité dans les pains, en fait.
Ouais.
Et si jamais, moi, j'ai décidé d'utiliser un autre levain qui a d'autres caractéristiques, est-ce que j'aurais d'autres éléments gustatifs, en fait ?
D'évidence. En fait, le levain, c'est... En anglais, le mot est assez révélateur, c'est sourdough. Mmh. Donc, c'est un morceau de pâte qui est devenu aigre, qui est devenu amer par la fermentation. Et donc, c'est tout ce... Nous, on a commencé notre levain en 1932, donc en fait, c'est toute une histoire, tout
c'est
un
les
fil
mêmes,
rouge,
en fait, avec...
Absolument, qui est reporté de fournée en fournée et qui sert de fil
descendant
rouge.
Descendant du levain
exactement,
originel. De
ouais,
c'est
absolument.
Énorme, ça.
Et ça, c'est fascinant.
Tu cultives, en fait, c'est ça. Tu cultives le
Alors,
même
non,
bah, souche de levain, j'y connais rien, mais...
Depuis... Non, mais c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a plein de façons différentes de travailler un levain, mais nous, quand on a notre levain, on va rajouter l'eau, la farine et le sel. Mm-hmm. On va avoir notre pâte à pain. Et ensuite, on va garder un morceau de côté qui va servir au levain de la fournée suivante. Mmh. Donc, il n'y a qu'une partie qui va pour vraiment faire du pain avec. Donc, il y a vraiment cette notion. Pour le coup, c'est vraiment comme une suite.
Ce qui veut dire que tu ne pourrais pas t'arrêter de produire. Tu ne pourrais pas t'arrêter de produire pendant un mois, sinon tu perdrais ce levain et
Absolument.
Tu repartirais quasiment à zéro.
De zéro.
On ne peut pas créer aujourd'hui. Enfin, si,
mais si on peut
pas,
créer, bien sûr.
Oui, mais toi, tu ne pourrais pas retrouver le goût des miches Poilane à partir d'un levain que tu reconstituerais à partir de je ne sais
pas
quoi d'ailleurs.
Pas vraiment. Parce que, bien sûr que l'industrie peut reproduire beaucoup de choses, mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas synthétiser le temps de la même.
Il y a une notion d'histoire, en fait.
Bien
c'est
sûr.
Ça. Hein, ce levain-là, il a l'histoire de la famille.
Absolument. Absolument.
Et justement, si on revient sur cette particularité de votre levain, est-ce que donc si demain il y a peut-être d'autres boulangers qui travaillent leur levain différemment, ils vont avoir des levains qui ont une autre caractéristique, qui va apporter un autre type d'égout.
Absolument.
En fait. Et quel type d'égout on peut retrouver grâce au levain ? Ils apportent quoi ? Un goût de noisette, un goût de champignon ?
En fait, on peut avoir tout parce qu'il y a des gens qui mettent différents ingrédients dans leur levain, de l'huile d'olive au miel, de la pomme, bon bref, peu importe. Mais les gens, chaque boulanger qui travaille au levain, en fait, a une identité propre et a vraiment une singularité.
Et souvent, elle est déterminée par les levains, qui est l'élément Absolument. Peut-être les plus marquants de la...
C'est vrai. Et après, c'est aussi tout le savoir-faire. Chez nous, par exemple, tout notre travail dans la fabrication du pain, c'est vraiment d'accompagner la pâte à pain et lui donner la chance de donner le meilleur d'elle-même. Mmh. Quelle que soit la saison, chaud, froid, sec ou humide, on est en début de saison, on est en fin de saison de cette farine. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'accompagner ce moment-là et d'être l'ingénieur son pour arriver au bon truc. Et donc, lorsqu'on forme nos boulangers pendant 9 mois chez nous en interne, notre travail, c'est vraiment de développer les 5 sens de nos boulangers pour qu'ils sachent comment réagir à cet environnement qui, chaque jour, est différent et nouveau.
Bien sûr.
Si on revient aux grandes étapes de la fabrication, tu as parlé du sourcing, la sélection des farines, comment ça se passe ensuite? Donc, on mélange
Donc, on a le levain qui est dans le pétrin. On va rajouter la farine, l'eau, le sel, et on a la pâte à pain. On va la laisser reposer une première fois.
Ouais, donc ça, elle commence à fermenter à ce moment-là.
Exactement. D'accord. Ensuite, on va découper le poids-volume de la miche de pain. Mmh. Si c'est un pain de sec, c'est un peu plus petit que mon pain de maïs ou que ma miche.
La miche, elle fait 1,9 kg.
Elle fait 1,9 kg à la sortie du four.
Elle doit faire 1,9 kg.
Ouais.
Pourquoi 1,9 kg et pas 2?
Alors pour le coup, là,
ça
franchement...
m'a travaillé dans mon introduction. Non, j'aurais trouvé ça plus facile à dire 2 kg.
non, là, c'est pour le coup, j'ai pas le détail historique, mais je pense que c'est vraiment juste le hasard.
C'est la découpe, c'est le poids qu'a déterminé ton grand-père et vous avez
et l'équilibre
ça.
Et l'équilibre qu'il a trouvé.
Par rapport à la conservation aussi, ce que tu disais.
Absolument.
Donc tu façonnes.
Donc je découpe le morceau de pâte, je le façonne, c'est-à-dire que là je lui donne sa forme finale.
Et tout ça est fait à la main, c'est ça?
C'est fait à la main. Et ce que j'allais rajouter sur ce point-là, c'est que au moment du façonnage, on donne vraiment un souffle à la pâte, on lui donne une énergie. Je suis pas du tout en train de vous parler d'un truc mystique, c'est physiquement, on est en train de donner corps.
C'est le geste, c'est ça, c'est le geste du boulanger qui va étirer la pâte, qui va la.
On donne du corps, on donne une forme finale, on donne. Enfin, quand je dis on donne une forme, je pense que ça résume assez bien le propos. Mmh. Mais ce qui est fascinant en tant qu'apprenti, c'est de se rendre compte que lorsqu'on arrive à façonner correctement sa miche pour la première fois, on a vraiment l'impression de donner un souffle à un morceau de pâte. C'est assez cool. On laisse reposer la pâte une deuxième fois, là, dans un panier. Mmh. Donc, mon panier rond pour la miche de pain de blé.
Quand tu étais petite.
Non, alors ça, c'est une version plus petite, mais oui, cette idée-là. Ouais. C'était aussi un panier en osier.
Ouais.
Et ensuite, on met le pain au four pour qu'il cuise environ 1 heure.
Ouais.
Avant une dernière étape qu'on oublie souvent de dire, moi la première, c'est le reçuage. C'est-à-dire qu'on laisse reposer le pain à revenir à une température qui, nous permet de le toucher avec nos mains, mais qui permet aussi au pain de perdre encore un tout petit peu de l'eau qu'il a dedans.
Mmh. Mais tu fais quoi? Il est entreposé dans un endroit à température intermédiaire?
Non, à température ambiante, mais sur un chariot sur lequel on positionne tous les pains qui nous permettent derrière que... Ils perdent un petit peu, comme un gâteau qu'on me laisserait sur une grille pour refroidir ou à revenir à température ambiante.
La cuisson, tu as parlé de la cuisson, c'est cuisson au feu de bois. Ça, c'est
uniquement au feu de bois.
Ouais. Pourquoi? Pour la température ou pour des arômes? Est-ce que ça donne des arômes particuliers?
100%, surtout que le bois va donner une odeur au pain. Mm-hmm. Mais mon grand-père a commencé à travailler avec un four à bois et il a trouvé son équilibre là-dessus. Ce que j'aime particulièrement avec le four à bois, plutôt que d'autres méthodes de cuisson, c'est une chaleur qui est très sèche, mais très douce. Mmh. La chaleur du fournil le reflète, c'est vraiment un environnement où on se sent enveloppé par un manteau chaud. Mmh.
Mais j'imagine que c'est plus difficile de contrôler la température d'un four à bois plutôt que des fours électroniques.
Mais 100%, 100%. Mais c'est aussi ce qui fait la particularité de Poilane. On s'en fiche d'avoir un thermomètre, on s'en fiche d'avoir... On a une horloge qui nous donne le temps plus qu'autre chose. Parce que, en fait, c'est ça le savoir-faire du boulanger Poilane. Il sait...
Maîtriser la température.
Il sait maîtriser le feu.
Son four.
Et il sait maîtriser, du coup, la cuisson de son pain par ricochet.
Il y a un autre élément de la miche Poilane qui revient à chaque fois, que c'est un pain qui se garde longtemps, en fait. Et j'ai vu même, je pense, dans des interviews où tu disais, quand tu habitais aux US, tu t'es faisais livrer de la miche Poilane et tu les gardais pendant 5-6 jours. Et même tes collègues à Harvard, ils faisaient pareil. Qu'est-ce qu'il y a dans cette miche qui la permet de rester bonne si longtemps.
Quoi. Des conservateurs, et là le mythe s'écroule.
Des bons ingrédients, parce que ce sont des bons ingrédients qui donc du coup ont de quoi se défendre pour tenir la route, et le volume. Un grand pain va avoir plus de quoi se défendre qu'un tout petit pain qui va très vite être traversé par l'air.
Les gros problèmes, moi par exemple en tant que consommateur, j'achète du bon pain à la maison, mais au bout des 3-4 jours il commence à devenir tout sec, en fait dur.
Mais même un gros pain, c'est pour ça que j'ai dit, mais gros pain, c'est que le volume qui fait qu'on garde de la fraîcheur.
La qualité des ingrédients fait vraiment une différence.
Je pense que c'est la sélection des farines, le fait
100%. On parlait tout à l'heure
d'utiliser des meules en pierre.
Exactement, on parlait de ça, la qualité des farines, sa capacité à garder ses huiles naturelles, ça aide, c'est sûr. Et après, par contre, soyons très honnêtes avec nous-mêmes et notre gestion de nos pains à la maison, la qualité de l'environnement dans lequel on le garde. On garde un pain à la montagne où il fait très sec, va sécher beaucoup plus rapidement que dans une petite cuisine très très chaude et très humide où le pain va avoir tendance à moisir.
D'ailleurs, on en profite. Et pour toi, la meilleure façon de conserver un pain à la poêlane à la maison,
c'est de trouver, d'être à l'écoute de son environnement pour essayer de trouver comment est-ce qu'on compense. Mm-hmm. Par exemple, à la montagne, de penser à emballer son pain dans un sac papier, peut-être un torchon humide ou peut-être même un sac en plastique
pour
qui va surtout garder l'humidité déjà et puis peut-être en redonner avec un torchon légèrement humide.
Mm-hmm. Mais à Paris, par exemple.
Et à l'inverse, à Paris, c'est compliqué parce que ça dépend vraiment de ta cuisine en fait.
Mm-hmm. Ouais, j'ai pas ma réponse alors.
Donc si tu as une cuisine qui est chaude et humide, pour prendre l'autre extrême de la montagne, tu vas avoir ton but, ça va être de garder l'endroit le plus sec possible. Donc là, le pain va être. Là, tu vas essayer d'éponger l'humidité.
Mmh. Super. Et toi, tu es très impliqué, je suppose. Tu disais quand même à l'époque, quand tu étais aux US, tu discutais quotidiennement pour contrôler la qualité du produit. Je suppose que maintenant que tu es sur place, c'est plus facile. Comment vous faites pour faire ces contrôles des qualités? Qu'est-ce que tu as mis en place et comment ça se passe chez Paulan, en fait?
Oui. Alors, mon papa avait un échantillon de une miche de chaque qu'une des fournées des compagnons de la manufacture, qui passait en revue chaque jour. On continue de le faire, pas forcément d'ailleurs en physique, ça peut être aussi en dématérialisé. Mm-hmm. Je pense notamment à Londres, mais aussi parce que les nouvelles technologies nous le permettent.
Mm-hmm.
Et donc, on a des paramètres qui sont indicateurs de la qualité du travail fait par les différents boulangers, qui peut nous aider derrière à aller revoir certains éléments de formation qui sont encore à acquérir ou à développer.
Mm-hmm. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Et surtout là, parce que vous produisez donc dans chaque boulangerie, donc dans les quatre, vous avez quatre.
Alors j'ai quatre adresses à Paris.
Plus une manufacture, plus à Londres.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Et on est aujourd'hui, si je vais dans n'importe quelle boutique, je vais avoir toujours la même qualité de pain. En
Absolument.
Fait.
Et ça, c'est vraiment un travail d'organisation et de formation, d'apprentissage en amont. Juste pour préciser, sur mes quatre adresses à Paris, trois d'entre elles ont un fournil, mais la quatrième a un moulin. C'est une boutique où il n'y a pas de production sur place, mais il y a un moulin.
Donc vous transformez quand même, vous faites des...
À la marge. À la marge, mais c'est D'accord. plutôt pour des micro-lots par exemple les céréales que dans notre petit champ à côté de la manufacture. Donc voilà, c'est tout ce travail.
Vous plantez aussi parfois des céréales.
Ouais.
Donc vous quand même maîtrisez, même si c'est une partie petite de la production, vous voyez un peu les parcours de la terre à l'assiette.
Exactement. Quoi. Mais vraiment dans un but expérimental.
Pour comprendre.
Et de test. Pas dans le but de me substituer à un autre métier,
oui,
en fait.
Oui, bien sûr. Mais est-ce que, par exemple, l'apprentissage que vous retirez de ces expériments, est-ce que vous
partagez avec... Ça vient évidemment nourrir tout le travail du boulanger.
Mm-hmm.
Ça leur permet aussi de comprendre d'où vient le grain et comment est-ce qu'il fonctionne.
Ouais.
Je pense qu'en fait, c'est très révélateur quand on a nos nouvelles... fournée de céréales, quand il y a les nouvelles récoltes, les meuniers viennent nous parler de la récolte. Et ça, c'est important pour nous, en tant que boulanger, pour comprendre et ressentir c'est quoi la couleur de ce qui est sorti du champ année-là.
Bien sûr. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais globalement, géographiquement, elles viennent d'où les farines que tu sélectionnes?
C'est France et autour de Paris.
Donc ça reste très local.
Ouais. Absolument.
On peut parler de la gamme aussi, parce qu'évidemment, on a parlé de la fameuse miche poilane. Quels sont les autres produits de la gamme? Les pains, les viennoiseries?
Pain de blé, pain de blé aux noix, pain de blé poivré, pain de seigle aux raisins. On a...
Ah, le poivré, c'est ça, j'ai vu. Ça, c'est apparemment une autre signature de la maison. C'est un pain qui est...
Comme un pain de mie. On a aussi un pain de mie, mais qui n'a pas de matière grasse à l'intérieur et dont le goût est rehaussé par un mélange de poivre.
D'accord, c'est original.
Et on a notre pain de maïs, nature ou noisette.
Et les biscuits.
Alors, on a... Deuxième famille de produits qui sont les biscuits. Là, on a 7 céréales différentes. Ah. Et chacune reflète vraiment les qualités uniques de chacune des céréales pour avoir une recette qui est propre à elle, mais qui permet aussi de mettre en avant les différentes qualités qu'elle a. Et puis, on a nos pâtisseries boulangères, le flan, notre tarte aux pommes, le chausson, pardon, j'oublie, et nos cakes.
On a une question sur, parce qu'en fait, c'est la démarche des qualités, elle a évolué, mais ça reste quand même très fidèle à la démarche de ton grand-père, il y a en 32, et de ton père. On parlait pas de bio à l'époque, même si je suppose qu'en 32, c'était plutôt bio, parce qu'on n'était pas rentré dans cette dynamique de surproduction. Aujourd'hui, les farines bio, elles jouent quel rôle dans la gamme? C'est 100% bio ou vous faites, c'est pas un sujet sur lequel vous...
Ben, lorsque mon grand-père a commencé à son entreprise, c'est le dialogue avec ses meuniers qui a construit ce que l'on appelle aujourd'hui notre cahier des charges. Ah. Et parmi les qualités de notre cahier des charges, on exige que nos farines soient exemptes de traces de pesticides. Notre farine de maïs, elle, est labellisée bio, et c'est important pour éliminer de façon certaine le risque d'OGM. Mmh. Voilà.
Mais vos farines de blé, elles ne sont pas certifiées bio. Même s'il y a un cahier des charges qui a l'air assez exigeant, qui élimine les pesticides, mais il n'y a pas de certification bio.
Notre exigence, c'est que la farine soit exempte de traces de pesticides.
Ouais. Mmh. D'accord. Vas-y.
Il y a une autre dimension qui revient souvent, c'est l'histoire du sans gluten, en fait. Et on a toujours cette discussion autour du bon et du mauvais gluten. Quelle est ta vision du sans gluten, de cette mode qui a un peu émergé récemment autour de ça? Est-ce que dans votre cas, c'est pas un sujet parce que vos farines sont de très bonne qualité?
En fait, il y a plus globalement une question de rythme. Et si on regarde au cours de l'histoire, le pain, il est souvent incriminé dans différents régimes. Et selon les époques, ça met en avant, ou ça met le haro sur différents aspects du pain. Parce que finalement, le pain, c'est quand même une de ces nourritures tellement premières, tellement basiques que... on s'attaque quand même finalement assez facilement à un de ces éléments.
Oui, on en mange tous beaucoup, en France.
Surtout en France.
Ouais.
Et donc, moi, mon approche et mon regard, c'est vraiment notre métier comme cette croisée des chemins entre farine de céréales et fermentation. Mm-hmm. Si vous faites le choix, à moins que vous ayez cœliaque, mais si vous faites le choix de manger sans gluten... ou autre, j'ai les réponses à cette question-là, soit mon pain de maïs qui est 100% farine de maïs, qui n'a pas d'œuf, pas de sucre, il est vegan, mais parce qu'en fait, globalement, le pain est vegan, à moins que vous mettiez des ingrédients qui ne le soient pas dedans, ou à moins que ce soit un pain de mie, une brioche. Et donc, pour moi, mon regard, il est plutôt là. C'est quel est le pain que l'on mange et quels sont les ingrédients qui sont mis dedans par le boulanger ou par le boulanger en herbe à la maison pour faire le pain que l'on va manger derrière.
Et justement, le pain au maïs poilane, il a été créé ou développé pour répondre à la demande de gens qui sont cœliaques, qui veulent manger sans gluten, ou c'est juste pour le goût et découvrir une autre saveur d'une farine de maïs?
Quand j'étais à l'université, on avait un pain de maïs, un cornbread, dont je me suis rendu compte que la recette, à chaque fois, mêlait 50% de farine de blé, 50% de farine de maïs. Ce qui paraît assez évident quand on réfléchit deux secondes et qu'on se dit, bah oui, en fait, c'est normal, la farine de maïs n'a pas de gluten à l'intérieur. Mmh. Et donc, pour moi, le défi, c'était de me dire, mais si moi, je traduisais cornbread par pain de maïs, ce qui en France, pour moi, faisait écho à, en fait, il faut qu'elle ait 100% de farine de maïs. Et en fait, c'est de là où j'ai construit mon défi de me dire, je vais faire un pain 100% farine de maïs qui va avoir la simplicité du pain au levain de blé ou du pain au levain de seigle et pourtant n'avoir pas d'autre farine que le maïs, donc du coup devoir composer sans gluten. Mais c'est, l'idée c'est m'est vraiment venue de ce goût à l'université, puis de faire un pain qui serait un clin d'œil aux origines américaines de ma maman. Donc c'est vraiment là mon propos.
Donc c'est toi qui l'as créé, ça c'est pas Absolument. Une création de...
Non, comme le pain poivré d'ailleurs.
Félicitations.
On a une question, c'est souvent qui revient aussi parce qu'on discute, comme disait Philibert, pas mal avec des boulangers. Il y a un phénomène à Paris, surtout qu'on observe ces 3-4 dernières années, mais même plus récent, depuis 2-3 ans, des nouvelles boulangeries, tendances, des modes qui émergent. Je vais citer quelques noms, Momiche, Pain et Vive, Hautenbel, Saint, Circus Bakery, French Bastard.
Ils sont contents comme ça.
Oui, on l'a plus pour tout le monde. mais ça, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que ces boulangeries deviennent à la mode, tous les foodistas qui font la queue, et parfois des queues très très longues pour manger ces pains-là. Comment tu vois ces phénomènes-là, surtout une maison qui historique comme Pologne, qui est là depuis presque un siècle. Et justement, je profite parce qu'on a une rubrique, en fait, on demande à nos auditeurs de poser des questions à nos invités. Et la première question que je vais partager avec toi, ça vient des XXOAXX via Instagram. Donc,
c'est très pratique comme nom.
Elle pose une question, c'est les pains Pologne étaient meilleurs que les autres. Est-ce c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que vous devez vous réinventer?
Alors, nous, notre tradition, c'est de réfléchir à quelles sont les meilleures des techniques passées et présentes pour aller de l'avant. Il y a quelques années, on a fait évoluer notre logo et on a travaillé sur une baseline qui est contemporain par tradition, qui est l'héritier de la philosophie plus globale de mon père et que j'endosse volontiers, de rétro-innovation. Prendre le meilleur de techniques passées et le meilleur de techniques de présentes pour aller de l'avant. Donc avoir des nouveaux confrères qui remettent l'accent sur mon métier, qui revalorisent certaines de nos techniques qui sont un peu plus anciennes, certains de nos savoir-faire qui montrent que il y a certaines choses où non c'est pas mal quand c'est de cette façon-là et pas de telle autre. En fait c'est génial, pour que rien ne change ou pour continuer à aller de l'avant, il faut que tout évolue.
Bien sûr. Et je pense que votre approche, elle n'est pas opposée par rapport à ça.
Pas du tout. En fait, notre approche, elle est vraiment dynamique. C'est-à-dire que pour continuer à aller de l'avant, il faut sans cesse avancer, sans cesse se poser des questions et sans cesse être ouvert à notre environnement. Et c'est ce dialogue entre passé et présent qui va nous permettre d'être contemporains.
Mais d'ailleurs, les boulangeries que citait Daniel tout à l'heure, elles communiquent beaucoup, souvent, sur les farines anciennes.
Ouais.
Est-ce que justement, et il semblerait que ce soit l'avenir d'un certain modèle de production et qui est plein de vertus, est-ce que toi, les farines que tu utilises, est-ce qu'on peut considérer que c'est des farines anciennes ou...
Oui, on peut le considérer comme tel. Après, tout dépend ce que l'on appelle ancienne. C'est pas... on a certaines de nos variétés de blé que l'on en utilise qui sont vieilles, elles ont plus de 20, 30, 40, 100 ans, et d'autres qui sont un peu plus contemporaines, elles ont peut-être 30 ou 40 ans.
Donc elles sont meilleures pour la santé et elles ont les vertus qu'on recherche.
Je pense que ça, l'avenir le dira, mais tu poses plusieurs choses quand tu dis ça, tu parles de farines anciennes versus... je sais pas, et tu dis les boulangeries contemporaines se targuent de farines anciennes. Comme si elles prennent cette tradition-là pour compléter leur approche nouvelle.
On va rentrer dans une nouvelle rubrique, c'est la rubrique donc distribution, pour comprendre un peu comment vous distribuez vos produits. Donc on a évoqué déjà les nombres des boutiques, 4 à Paris, il y a d'ailleurs une qui est à côté de chez moi, Butte-Chaumont, où je passe de temps en temps, et une à Londres. Et surtout, nous, ce qui est intéressant, commençons par les boutiques déjà. Comment est-ce que toi, tu résumerais l'expérience dans une boutique Pologne, en fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas?
Alors, la boulangerie, c'est... Le métier, le commerce que vous allez visiter le plus globalement dans une semaine. Et donc, nous, on est vraiment au cœur d'un quartier, dans le quotidien des gens. On connaît Les enfants jusqu'aux grands-parents, ils viennent prendre une tranche de pain ou un croissant pour la sortie des écoles, une tarte aux pommes, bon bref. Et donc, ce que l'on veut nourrir, c'est un moment où quand les gens rentrent dans la boulangerie, ils se sentent comme lorsque l'on est dans le fournil, enveloppé par ce cocon-là. Mmh. Et notre métier, c'est de leur servir du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères qui vont être des bases de leur régime alimentaire, de leur alimentation. Mmh.
Super. Et au-delà des boutiques, il y a une forte activité B2B. On a fait référence au début à l'international, mais même en France, il y a une forte activité B2B. C'est plus difficile pour nous de voir parce qu'on voit évidemment les boutiques, on peut les visiter. L'activité B2B, ça reste quelque chose de plus difficile, moins visible. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu plus de ce que vous faites en B2B ?
Eh bien, le B2B, c'est de se dire on ne veut pas être à tous les coins de rue. Donc, on va compter sur nos copains, les personnes avec lesquelles on partage cette notion de pain et chez qui on va revendre dans un quartier notre pain avec leurs produits. Mmh. Du fromage, de la charcuterie, donc,
voilà, le profil de ces revendeurs, c'est ça, c'est des métiers de bouche, des restaurateurs.
C'est globalement des métiers de bouche, qu'ils soient spécialisés ou multiproduits, parce qu'il y a aussi, sont aussi des supermarchés qui proposent la proximité et dans un lieu, l'ensemble de ces ingrédients du quotidien, tout comme effectivement les restaurateurs. Mmh. Bon, hors période Covid, évidemment.
Oui.
T'as combien de revendeurs aujourd'hui en France et du coup dans le monde ? Parce que finalement, la présence, à part à Londres, vous avez une boutique, la présence dans le monde et la notoriété de la marque, sa distribution, elle vient de ces revendeurs. Alors.
Absolument. On a à peu près 2000 revendeurs sur Paris et l'Île-de-France.
Ah, quand même.
Que l'on livre chaque jour.
2000 juste à Paris et l'Île-de-France et dans le monde, tu sais, du coup. J'imagine.
Alors, dans le monde, c'est un petit peu plus compliqué parce que la plupart de nos clients aujourd'hui sont des clients privés qui vont acheter soit pour eux et des copains. Donc comme un peu la façon dont on fera un achat groupé et éclaté.
Donc là,
c'est pas de la revente en tant que telle.
C'est pas presque du B2B, c'est du B2C, à l'international.
Ouais.
Ah, tu vends pas à des... Moi, je pensais que tu vendais à des boulangers, pardon,
à des revendeurs. Alors, on le fait, mais avec les années beaucoup moins, parce que, en fait, là où nous, on revendait déjà en direct dans les années 70, on a un site internet marchand depuis 97.
Bravo.
À l'époque, c'était complètement précurseur de la part de mon père. Aujourd'hui, là où hier les gens allaient dans leur épicerie spécialisée, aujourd'hui ils vont plus volontiers l'acheter pour chez eux directement et pour acheter avec leurs copains.
Compris ça comme
et
ça.
Et comment ça marche la logistique de tout ça ? C'est comment tu fais parvenir ?
On fabrique le pain, on l'emballe et on l'envoie.
Et tu l'envoies.
Ça c'est clair.
Et tu es obligé. Ça c'est un vrai sujet.
Tout est fabriqué à Paris.
Tout est fabriqué à la manufacture.
Tout ce qui est manufacture.
Et on l'envoie. Nous notre limite c'est il faut que ça arrive à la boîte aux lettres, au paillasson de notre client en 24 heures.
Ouais. 24 heures. Donc ça
part en 24 heures.
C'est de l'avion.
On perd un peu de fraîcheur,
mais
on a quand même un pain qui va se garder encore plusieurs jours, plus qu'une baguette, par exemple.
Mais qu'est-ce que tu...
Alors, je tape un peu sur cette pauvre baguette.
Et qu'est-ce que ça, aujourd'hui. C'est un sujet qu'on couvre très souvent dans ce podcast, et c'est évidemment l'impact écologique, l'impact carbone. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui pourraient t'attaquer sur l'impact ? Parce que l'impact carbone, du coup, d'une miche poilane qu'on va livrer aux États-Unis en avion, il est mauvais. Qu'est-ce que tu réponds à ça ?
Alors, moi, ce que je propose, c'est une expérience et un produit qui va se garder. Mmh. Et après, c'est les gens qui achètent mon pain, ils vont acheter un volume de pain qui va se garder aussi.
Donc, en général, on n'achète pas qu'une miche, d'ailleurs.
Absolument, absolument. Et donc, pour moi, si on regarde les choses dans son ensemble, si vous prenez un pain surgelé qui a été fait dans une usine en Europe, qui a été amené en voiture, enfin en camion.
Avec du froid qui consomme aussi de l'énergie.
En froid, je pense qu'il y a c'est pas très sexy de raconter ça, mais globalement, il y a peut-être un regard un peu plus précis à avoir plutôt que juste regarder l'aspect ou la partie immergée de l'iceberg dans cette réflexion écologique. Qui est juste, mais qu'il faut considérer dans son ensemble.
Et le premier marché, c'est la France. Certainement, le deuxième, ça va être l'Angleterre. Je crois que le troisième, c'est assez vite les États-Unis où tu vends. Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question d'avoir une unité de production aux États-Unis pour pouvoir, en effet, livrer sans utiliser l'avion ?
Et la fabrication est beaucoup plus... C'est une autre logique. Et quand vous voyez la taille des États-Unis, la question se posera aussi très vite aux États-Unis. Comment est-ce que à partir de New York,
livrer
Los Angeles,
ouais.
Ce qui est la même durée de temps en avion que
traverser l'Atlantique. Mais on reviendra après sur la suite, mais est-ce que ça fait partie à un moment des réflexions de se dire on va créer des sites de production dans d'autres pays?
Complètement. Mais c'est une réflexion d'ensemble et qui pour nous fait vraiment partie c'est une réflexion d'ensemble et de trouver un équilibre et un juste aiguillon entre ce qui a du sens ou pas. Et si vous regardez sur les 20-30 dernières années aux États-Unis, il y a des boulangers, j'ai des confrères américains qui ont développé des boulangeries incroyables. Donc effectivement, ça se pose la question de qu'est-ce qu'on va apporter de plus
dans ces marchés.
Exactement.
Nous, en regardant la demande donc internationale des pains, du pain polonais, on s'était dit mais pourquoi il n'y a pas d'autres boulangeries par ailleurs. Donc dans notre préparation et notamment Julie, notre stagiaire qu'on remercie énormément parce qu'elle a fait un travail de ouf.
On salue.
Donc notamment, on a écouté les podcasts Les Gratins avec Pauline Léniaud, qu'on salue également.
Salut plein de gens aujourd'hui.
Et tu parles.
Quoi, le pain fait des copains, n'est-ce pas?
C'est vrai. J'ai noté que tu utilisais le mot copain d'ailleurs pour revendeur. Ouais. C'est pas un mot que tu utilises au hasard, parce que copain.
Non, parce que c'est celui avec lequel on partage le pain.
Voilà.
Et c'est vrai que c'est l'étymologie, mais bon, c'est très difficile d'échapper dans notre métier à des métaphores ou des analogies avec le pain.
Pardon, je t'ai coupé, Daniel.
Ah, il n'y a pas aucun problème. C'était très intéressant. Notamment dans les podcasts gratins avec Pauline, tu parles d'un échec, en fait, et d'une ouverture en Belgique.
Oui.
Et nous, ça nous intéresse beaucoup, les échecs, parce qu'on aime apprendre des échecs, les nôtres déjà, mais des autres aussi.
On apprend beaucoup.
Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur cette expérience-là et la décision d'arrêter, pourquoi
Alors, j'ai ouvert une boulangerie à côté d'Anvers, en Belgique, et on a un super départ. Et après le départ, on a eu un changement d'équipe, ce qui est assez naturel dans le développement et la construction d'une entreprise. On a pris un peu de retard et notre développement commercial en a pâti. Et s'est retrouvé, quelques mois plus tard, je me suis retrouvée face à cette question de me dire... Soit je rattrape le temps perdu avec un investissement, ou alors j'arrête. Et la décision d'arrêter, c'était de me dire l'investissement par rapport au temps que ça me prendrait de le recouper me semblait pas opportun à ce moment-là. Et donc, c'est tout simplement une décision bête et méchante d'appréhension du terrain et un arbitrage entre... des chiffres et une appréhension du terrain et puis de trancher, et ça c'est un de mes rôles en tant que chef d'entreprise.
Il y avait un fournil dans cette boulangerie?
Absolument,
ouais,
absolument.
Et cette expérience en fait, elle t'a du coup refroidi pour tenter une ouverture ailleurs, ou qu'est-ce que tu retires à la fin de cette expérience?
Non, pas forcément, moi plein d'enseignements, mais celui qui peut être intéressant à partager avec vous et avec vos auditeurs plus largement, c'est l'importance du temps que prennent les choses. Et donc, du coup, pour moi, ça fait 18 ans que j'ai pris la suite de mes parents, mais je n'ai pas vraiment l'impression que ça fait très longtemps. Pour beaucoup, ça paraît énorme, mais pour moi, j'en suis vraiment au début. Et cette expérience en Belgique, pour moi, me rappelle que, en fait, j'ai construit un projet et il n'a pas avancé comme je le voulais, et j'ai pris une décision comme on fait des arbitrages professionnels.
Bien sûr. On évoquait l'e-commerce, c'est un autre sujet qu'on aime beaucoup, et Philibert félicitait toi, Pauline, ton papa, depuis 1997, d'avoir lancé une plateforme e-commerce. Comment vous vous organisez aujourd'hui? Est-ce que ça pèse, c'est un point important sur l'activité des Pauline?
Aujourd'hui, pour nous, le e-commerce est une boutique à part entière. C'est vraiment, que l'on soit en France, à travers l'Europe ou à travers le monde, c'est le lieu qui va recueillir les commandes que l'on va préparer et dont différents transporteurs, selon les destinations, vont le récupérer et le livrer.
D'accord.
Et ça représente quel poids aujourd'hui tu peux nous donner un ordre d'idée
c'est la taille d'une boutique.
C'est comme une boutique.
Et tu livres quasiment dans le monde entier. C'est-à-dire que tu as des distributeurs, des transporteurs dans tous les pays.
Oui.
D'accord.
Bon, globalement, FedEx est notre distributeur principal.
On peut parler de la marque aussi, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. La marque Poilane, elle est très notoire. Elle a une très belle notoriété en France et j'imagine aussi aux États-Unis. Est-ce que tu as conscience de ça et qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est un actif que tu travailles ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse moins?
Alors, pour moi, c'est beaucoup de fierté quand j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui, à l'autre bout du monde, connaissent Poilane parce que mon grand-père, parce que mon père et parce que moi, désormais, à date, cultivons une entreprise, ses valeurs, ses projets. C'est un objet de fierté et c'est comme un champ que l'on cultive, une terre que l'on nourrit pour qu'elle puisse continuer d'être génératrice de belles fournées et avant ça, du coup, de belles récoltes.
Qu'est-ce qui, selon toi, explique aujourd'hui cette notoriété dans le monde?
Notre singularité, ce qui fait que Poilane est unique. Notre compréhension d'une tradition boulangère, notre intransigeance sur la qualité, le savoir-faire que l'on cultive. Peut-être que ça, c'est quelques ingrédients.
Super. On a juste une dernière peut-être question par rapport à Poilane, à la marque et surtout les produits. En préparant les podcasts, on a dit autour de nous qu'on allait t'interviewer et on a eu des relations assez mitigées parce qu'on a eu soit des gens qui adorent, mais vraiment des vrais fans qui adorent, qui jurent que pour les pains Poilane, et d'autres qui disent « Ah mais j'aime pas du tout, c'est pas mon style ». On n'a pas eu des retours des gens qui étaient neutres. Il y avait toujours d'un côté très tranché en fait. Pourquoi tu expliques ça? C'est peut-être une caractéristique gustative du produit. Qu'est-ce que tu...
Alors, le premier truc que ça m'inspire, c'est tout simplement le goût et les couleurs, en fait. Notre pain est singulier. Il a du caractère. Il est particulier. C'est une grosse miche de pain qui a une croûte épaisse, qui a une mie dense. Notre pain de seigle, c'est un pain qui va exploser dans la bouche de parfums floraux, mais qui a aussi une densité. Le pain de maïs, il va avoir un goût pop-corn, mais il va être aussi très particulier avec une croûte qui va être légèrement, qui va ressembler presque à la croûte d'un gâteau, mais qui va avoir une mie qui va être très douce. Et toutes ces choses-là, c'est parce que c'est des parties pris, ben forcément, c'est segmentant.
Et c'est ça qui rend peut-être la marque encore plus forte, en fait, parce qu'elle a du caractère.
En tout cas, ça nourrit son identité, ça c'est sûr.
C'est super.
Justement, un sujet qui va à peu près dans ce sens-là, comment tu imagines faire évoluer la marque pour continuer à être pertinent dans les années à venir? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses à faire?
Alors, il y a plein de choses à faire. Ouais. Non, mais du fournil et faire savoir nos savoir-faire, ça se nourrit déjà par qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le nourrit et pourquoi est-ce qu'on reste pertinent. Et ça, c'est une question quotidienne pour moi en tant que chef d'entreprise.
Mmh. Faire savoir, c'est ça, ouais.
Déjà, de nourrir notre levain, nourrir notre singularité qui en est. Mmh. Et effectivement, ensuite, par ricochet, faire savoir ce que l'on fait.
Oui.
Et comment on le fait, comment on le fait ici aujourd'hui finalement.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on voit souvent. Faire bien, c'est une chose, mais il faut le faire savoir. Quoi.
100%.
Donc ça, pour toi, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour faire évoluer encore la marque dans son temps.
Mais comme ça l'était pour mon père ou mon grand-père avant ça. Et
avec
en fait,
l'évolution des enjeux.
Des enjeux, des moyens, et puis des porte-voix aussi. Enfin, je pense pas qu'il y a 50 ans, mon grand-père s'imaginait qu'on ferait un podcast.
ça reste de la radio on demand.
Ça, c'est vrai. C'est vrai.
On n'a rien inventé. Si on parle de l'actualité, évidemment, malheureusement, l'actualité de la crise sanitaire, quel a été l'impact du Covid sur ton business? Est-ce que tu as dû fermer des boulangeries?
Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir rester ouvert, ce que j'ai pris comme une vraie responsabilité pour, lorsque les gens me faisaient la confiance de venir jusqu'à moi, de leur proposer un maximum de produits et de services. J'ai développé la livraison de paniers de légumes. On a revendu... Alors, c'était des choses qui étaient dans les tuyaux que j'arrivais pas à faire et que, grâce au confinement, j'ai pu mettre en œuvre.
Ça, tu l'as mis en place pendant le premier confinement?
Absolument.
C'est resté.
Et de la même façon, au début du confinement, nos clients étaient moins enclins à acheter une tarte aux pommes, surtout au début. Enfin, vraiment, faut se replacer le contexte au mois de mars l'année dernière. Les gens, ils avaient peur. Ils rentraient à la boutique. C'était pas agréable. Et donc, ils étaient dans une logique de vraiment, on est là pour nourrir, manger, on fait rapidement notre achat et on rentre chez
C'était
nous.
C'était la guerre, on nous a annoncé une guerre.
Un peu, oui, c'est une forme de rupture. Et bon, j'avais une conversation avec un de mes fournisseurs d'œufs où il disait, mais pourquoi est-ce que vous ne revendez pas mes œufs? Je lui ai dit, écoutez, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais l'attraction pour ça. J'avais ça en tête, et comme je savais qu'il n'y avait plus d'œufs sur les étals des supermarchés, et que d'un autre côté, mes clients n'avaient pas le goût d'une tarte aux pommes autant que précédemment, je me suis dit, bon, les alvéoles, je vais les reconditionner pour proposer des cartons de 6 œufs, mm-hmm. et encore à date, on les vend.
Ah, du coup, c'est resté.
Donc,
c'est resté.
Et les paniers de légumes aussi. Donc, si je passe une commande de la miche, je peux avoir à côté un panier
Exactement.
De légumes.
Exactement. Si vous allez sur notre site, shop.voilan.com, il y a à emporter et vous pouvez avoir le vendredi les paniers de légumes.
Super. Justement, il y a une question, une deuxième question de l'audience. Ça vient de la part d'Antoine Lévrel-Loury via LinkedIn. Comment peut-on se réinventer avec la crise sanitaire dans un domaine familial de cette taille?
Alors, pas 100% sûr, je vais être sûre de ne pas répondre complètement à côté de la plaque, mais déjà, il y a quel est le métier que l'on fait. Moi, mon métier, c'est de nourrir la base de l'alimentation de mes clients. Mais plus globalement, parce que j'ai cette chance, c'est aussi la responsabilité de leur proposer du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères qui vont vraiment être nourriciers. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça nourrit le corps, et donc du coup, parce que ça nourrit le corps, ça donne la possibilité de laisser libre cours à son esprit. On n'est plus dans une réflexion de sustentation, on est dans quelque chose qui est des sucres lents qui vont nourrir sur le et donner du coup l'opportunité de se dire on nourrit plus globalement notre culture du pain, mais aussi plus globalement notre capacité à gambader plus loin.
D'accord. On a une autre question sur les actualités. En fait, je te vois passer souvent sur mon téléphone, sur Instagram, avec une pub de la part des masterclass.
Ouais.
Et là, je vois que tu es une star mondiale parce que tu apprends aux gens à faire leur pain. Donc, masterclass, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui propose des formations à distance, en vidéo, mais vraiment avec la crème de la crème dans chaque métier, avec des réalisateurs hyper connus, des chefs 3 étoiles. Et c'est toi la personne qui apprend les gens à faire du pain. Comment ça s'est arrivé? Est-ce que tu peux nous parler des coulisses du projet?
Bien sûr. En fait, avec le printemps, j'ai fait plusieurs petites démonstrations et autres pour à la fois répondre aux demandes et puis occuper partager ce que des clients, ce que des contacts me demandaient. Et de là est venue l'opportunité de travailler avec Masterclass. Masterclass, c'est une plateforme majeure de e-learning. Leur spécialité, c'est d'avoir un travail de curation de différents experts sur différents sujets et qui créent des curriculums pour apprendre, alors dans mon cas, faire du pain à la maison. Et dans mon cours, mon rôle, c'est de vous apprendre comment faire du pain, de blé, de seigle, de maïs, et aussi de faire qu'est-ce qu'on fait avec ces pains une fois qu'on les a faits. Parce que je suis absolument persuadée que le pain, c'est non seulement une belle nourriture, mais ça peut aussi devenir un ingrédient. C'est un des messages que je consigne dans le livre que j'ai publié à l'automne à la fabrique de l'épure, Poilan des grains au pain. C'est de raconter comment faire ou avoir l'expérience de faire le pain comme nous on le fait à la boulangerie, à la maison, mais aussi comment utiliser le pain comme un ingrédient.
Genre faire des tartines,
oui, mais aussi,
de
par
salade,
exemple, mitonner une soupe en épaississant la soupe avec l'ami du pain. C'est l'étymologie, mais...
Oui. C'est gazpacho, les gazpacho.
C'est le gazpacho, c'est les ajo blanco. Et ensuite, c'est aussi avoir des usages un petit peu qui m'ont été inspirés, en fait, en repoussant les limites et en testant des recettes. Donc, par exemple, faire des financiers avec de la chapelure de pain à la place de l'amande. En général, les gens font l'inverse, mais oui. C'est-à-dire que en général, on utilise de l'amande en se disant on veut surtout. Enfin, de toute façon, la financier, c'est pas forcément un généralement, un financier, il y a de la poudre d'amande.
Ouais.
Et là, je me suis dit, je vais remplacer la poudre d'amande par du pain. Parce que souvent, la farine d'amande est un des substituts du gluten.
Ouais.
C'est pas pertinent là. J'ai pas vraiment inversé sur cette recette-là, mais dans l'esprit, c'est un des cheminements, c'est une des recettes. Évidemment, il y a des tartines, mais c'est aussi utiliser le pain quand il est très frais, et les qualités du pain quand il est extrêmement frais, jusqu'au jour où il est tellement sec et dur qu'on va faire la chapelure, on va
transformer. Trouver un autre mode de consommation d'un pain qui est un peu plus rassis.
Et on voit même aujourd'hui des gens dans une démarche anti-gaspi qui vont transformer du pain, du pain vieux en bière ou vont utiliser les céréales des bases qu'il y a à l'intérieur pour faire d'autres produits, quoi.
Et de ce point de vue-là, il y a c'est évidemment des démarches qui sont connues et soit remises au goût du jour, soit revalorisées. Je pense simplement à l'initiative de Refettorio où ils utilisent les invendus alimentaires plus globalement et que je fournis en pain parce que lorsqu'ils ont ouvert, c'était la seule chose qui leur manquait juste au moment de l'ouverture. Et de cette rencontre fortuite maintenant de 2 ans d'expérience.
Déjà.
Ce qui est génial, c'est que Maxime et son équipe régulièrement réutilisent le pain dans leur recette.
Ah, super ça, top. Et tu as publié aussi plus des 10 livres déjà. Donc on a commencé à regarder, on ne s'attendait pas à tant des livres en fait. C'est quelque chose qui prend.
Non, mais
je me rassure.
Tu as des choses à dire.
Je suis boulangère, mais c'est vrai que je me suis rendu compte ces dernières années qu'en fait j'avais publié quelques bouquins et qui sont à chaque fois les témoins de différents messages et projets, d'une anthologie texte sur le pain à l'histoire de mon entreprise familiale, de comment utiliser le pain comme un ingrédient, à mon tout dernier livre qui lui raconte mon expérience à la tête de Poilane, qui raconte à la fois l'histoire de notre maison, mais comment est-ce qu'on fabrique le pain chez nous et ce qui fait notre singularité. Et ensuite de se dire, le pain est non seulement une nourriture, mais c'est aussi un ingrédient. Et puis, comment utiliser le pain de la croûte jusqu'à la dernière miette.
Et on parlait de la notoriété de la maison Poilane. Je pense que le fait que tu sois active et que tu communiques avec beaucoup de transparence sur les savoir-faire, l'histoire de la maison, ça apporte aussi, ça nourrit cette notoriété et cette crédibilité dans le secteur.
Absolument. C'est
pas un hasard certainement si Masterclass est venu te chercher, alors qu'en effet, c'est une référence internationale et ça en plus te donne encore plus de poids.
Et on a appris que tu es bilingue, donc ça aide aussi pour travailler avec Masterclass.
Aussi, certainement
avec d'autres la touche grandes, française qui...
Certainement
qui
d'autres grandes boulangers français qui sont bilingues, mais
oui.
C'est vrai.
Dernière question, parce qu'après on a encore une nouvelle rubrique, c'est que ça c'est presque un off, mais j'ai croisé
j'éteins le micro là.
Non, j'ai croisé une entrepreneur dans la bouffe et qui figurait en fait dans la liste des mentors, des personnes qui accompagnaient les projets. Est-ce que tu es active là-dedans? Est-ce que tu accompagnes des jeunes entrepreneurs dans la bouffe, des startups autour de ces métiers-là?
J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs dans tout l'univers des nourritures.
La bouffe, tu peux dire le mot bouffe.
Ah non, en fait, je l'aime pas du tout, en fait, ce mot.
Voilà, on ouvre le débat, j'ai senti pour ça.
Parce que pour moi, l'alimentation, c'est nourrir, c'est vraiment construire quelque chose. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup, c'est pas par pudeur, mais c'est tout simplement que ça reflète pas ma philosophie.
Tu vois le côté négatif du mot, même si on est assez nombreux aujourd'hui à trouver le mot intéressant plutôt qu'utiliser alimentation,
mais bien sûr.
Food, qui est encore pire.
Non, mais bien sûr. Mais ça, c'est vraiment une question d'appréhension et puis de d'où l'on vient. Mais c'est vrai que quand je vois le travail que font les agriculteurs qui font ma farine, les fermiers qui rassemblent les œufs qu'on utilise dans nos pâtisseries, j'ai beaucoup de mal à utiliser l'autre terme.
Mais est-ce que tu vois le mot malbouffe? Mais on peut
non,
voir
pas forcément.
Le mot bonne bouffe.
Non, après, c'est
chacun son histoire.
Mais exactement comme tu dis, c'est chacun son histoire. Et en fait, c'est ce qu'on met derrière. C'est-à-dire que toi, tu peux dire le mot bouffe comme moi, je vais utiliser le mot nourriture ou alimentation.
Et nous, on met le mot bouffe avec la même chose que toi, avec énormément de respect pour tous les acteurs qui sont derrière ces filières.
Mais 100%. Et en fait, c'est vraiment cette intention. Non, mais pas du tout. Mais je pense que, en fait, ce que tu dis, c'est on dit la même chose, on utilise juste des mots différents.
Parce
et en fait,
c'est la richesse
de la langue française, mais c'est aussi la richesse de nos expériences. Mmh. Et je le dis pas contre, c'est juste, c'est moins mon mot chouchou. Quoi. Mmh. Et donc, du coup, j'en perds le fil de ce que j'étais en train de raconter.
Philibert, j'avais super la question. Mais...
J'avais proposé de couper le micro, on aurait dû couper le micro. Non, c'est très intéressant ce que
c'était
tu viens de dire.
C'était par rapport au temps que tu passes auprès des entrepreneurs du secteur, des affaires de la nourriture. Non.
Merci Daniel de nous remettre en droit chemin. Parce que, pour moi, lorsque j'ai la chance de rencontrer des entrepreneurs qui ont un projet alimentaire, quand ils ont un projet d'une pâtisserie, d'un pain, d'un biscuit, d'un gâteau, c'est une vraie chance et l'opportunité d'un dialogue. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont fait confiance en me posant des questions, et je le prends vraiment comme une vraie responsabilité. Bah maintenant, j'ose plus dire le mot, mais j'allais dire comme un honneur vraiment de me dire, bah en fait, ils me font confiance, c'est trop cool, merci.
Et je peux t'assurer qu'eux, ils sont très contents de t'avoir aussi, parce que c'est win-win, en fait. Je pense que tu apprends de leur expérience, et eux, surtout, ils apprennent beaucoup de ton expérience, quoi.
Tu risques d'avoir des demandes, là, si tu dis ça maintenant.
J'aurais pas dû. On a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent.
Et ils vont tous t'appeler. Enfin, pas tous, mais il y en a certains qui vont t'appeler. Mais, et tant mieux si
mais
tu
Mais vous savez, si vous contactez Apollonia, il faut surtout pas parler des bouffes. Ouais, faudra... Attention.
Mais non, mais de toute façon. Passer dans le podcast. Mais non, mais c'est. Enfin, pour le coup, c'est. Quand tu dis le mot bouffe, c'est comme moi je dis le mot nourriture ou le mot alimentation. Oui. C'est vraiment pour le coup, il y a pas d'épilogue ou de mésentente.
Ouais.
C'est juste le mot qui moi me vient plus naturellement, comme toi c'est le mot bouffe.
Ben parlons pas de bouffe maintenant, mais de business du coup, l'autre versant de notre podcast. Est-ce qu'on peut parler de chiffres? Combien de salariés chez Poilane l'entreprise aujourd'hui?
On est 160 compagnons et collaborateurs, des personnes avec lesquelles on partage un métier ou une responsabilité dans des services supports pour la fabrication du pain et des pâtisseries.
Dans les fournils et en magasin, exactement. Plus tous les services supports, 160 personnes. Mmh. Et combien de pains vous fabriquez par jour?
On va fabriquer entre 3 et 5 000 pains par jour.
Par jour? Mmh. Ouais. Ça fait pas mal des pains à l'année,
ouais.
Quoi. Ouais. C'est quoi? Ça fait 1 million à l'année? Non, ça fait plus. Je ne sais pas si vous comptez comme ça à l'année.
Non, ouais. On ne compte pas à l'année, en fait.
Daniel veut calculer le chiffre d'affaires. Ouais, bon, ça dit les publics, on l'a trouvé.
C'est mon côté consultant.
on réalise un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros.
Ouais, on l'a trouvé.
On a justement une question, parce qu'en fait, vos chiffres, il y a beaucoup de transparence dans votre démarche.
Tout est public.
Et tout est public, en fait, sur les sites type société.com, on peut trouver l'historique.
C'est de plus en plus rare, hein, d'ailleurs.
C'est très rare, ouais.
C'est une obligation légale.
Oui, mais il y en a qui
la contournent. Il y a des façons de... Ouais. Ouais. Et justement, ce qui nous a attiré l'attention, c'est qu'on observe que 2020, donc l'année fiscale pour vous, elle se finit en mars 2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'année 2019, c'était une très belle année pour la maison Poilane. Mais juste les années dernières, elles étaient un peu plus difficiles, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer les contextes un peu de ces 5 dernières années? Pourquoi ces difficultés? Et surtout, pourquoi cette belle performance en 2019-2020?
Ah, bah, tout simplement d'engranger la fermeture de la Belgique.
Oui.
D'investir dans nos outils et puis notre développement commercial.
Bien sûr. Ça, c'est des choses qui consomment quand même beaucoup de cash, quoi. Et les Covid, ça a été pour vous, donc cette année qui va se terminer pour vous en mars 2021, c'était une année, je suppose, difficile ou vous avez... Ouais.
Oui, parce que on livre des revendeurs et des restaurateurs.
Oui, donc ça,
donc,
c'est mort.
Je veux dire, il faut, enfin, le propos, il faut le regarder dans son ensemble. Et puis, on a accueilli nos clients lorsqu'ils venaient à la boutique un à un. Non, c'est pas une année glorieuse de mieux.
Et B2C, on va dire les boutiques, les directs consommateurs, ça représente quoi chez vous? C'est la moitié de l'activité? C'est moins? C'est plus?
Non, c'est plutôt un 20-80.
Ah ouais? Ah, quand même. Donc, ouais. Donc, la fermeture des restaurants, ça a un impact
absolument.
Qui est vraiment important, quoi.
Absolument.
Comment, ouais, une question habituelle aussi, parlons du capital aujourd'hui. Comment tu as financé la croissance, les ouvertures? Est-ce que c'est des levées de fonds? Est-ce que c'est du bancaire? Aujourd'hui, l'actionnariat, comment il est structuré? C'est familial.
Poilane est une entreprise familiale. Et donc, en fait, nous, notre logique, c'est vraiment une logique de long terme et de création de valeur qui permet d'investir la valeur créée.
Donc du coup, le capital, il reste familial. Absolument. Et la croissance est financée par de la dette.
Exactement.
On arrive vers la fin et on a une question, une rubrique rituelle qui sont les enjeux pour la suite. Donc d'abord, première question, quels sont pour toi les challenges? Donc surtout là, tu nous parles d'une stratégie de long terme, donc on va parler long terme. Quels sont pour toi les challenges et les opportunités des 5-10 années à venir pour Poilane?
Alors, Poilane en 2020 a fêté ses 88 ans, ce que je trouve symbolique parce qu'on est installé au 8 rue du Cherche Midi. Et le chiffre 8 représente l'infini pour nos sociétés occidentales. C'est aussi un chiffre auspicieux dans les sociétés orientales. Donc toute cette combinaison-là a fait que la symétrie du chiffre 20-20-8-8, je voulais célébrer ce moment. Je pense que parmi les prochaines étapes, il y a fêter peut-être un centenaire, évidemment, mais surtout transmettre à une quatrième génération. Et pour transmettre à une quatrième génération, c'est au quotidien former des nouveaux boulangers, former des nouvelles équipes de vente et alimenter tout ce mouvement-là pour que en 2030, en 2040, en 2050... Poilane existe.
Et
continue de grandir et continue d'inspirer.
Et la quatrième génération, elle est en route déjà. Ils sont déjà en boutique en train de se préparer.
Exactement. Elle est déjà dans les boutiques en train de vendre du pain, au fournil pour fabriquer le pain, en pâtisserie pour les biscuits ou les pâtisseries boulangères. Oui, absolument.
Super. Titre perso, c'est quoi tes projets en fait? Parce que, au-delà des masterclass, des livres, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont dans ces sens-là?
Créer un podcast.
Non, j'ai plein de... Alors, pas les projets qui manquent. Parmi les choses que j'adore faire, j'adore faire du vélo, du vélo de route. Je suis habituellement une cycliste citadine, mais il y a quelques années, j'ai découvert le vélo de route.
Ah, en mode sportif, ouais.
Oui, alors pas très terriblement sportif, mais...
Pour tes déplacements, c'est vraiment...
C'est vraiment une course de vélo. On va faire une sortie de vélo où on découvre un paysage, on roule ensemble, et parce qu'on roule ensemble, on va plus loin. Et ensuite, c'est des défis, parce que c'est aussi des rencontres humaines, en fait. Toutes les... le Nicolas Werner Challenge, où on fait 200 km... autour de Paris en une journée, où j'avais fait avec
une étape du Tour de France.
Le groupe des cyclistes à Londres, parce que je fais partie d'un club cycliste à Londres qui s'appelle Rafa Cycle Club, et on a fait avec un groupe de cyclistes, on a fait Amsterdam-Strasbourg en vélo, c'était génial.
Là, on parle pas de vélo électrique en plus.
Non, on parle pas de vélo électrique.
Vélo de course,
pour le coup, je ne saurais pas le réparer.
En mode sport.
Et tu fais pas des allers-retours à la manufacture à Bièvre, non? En vélo?
En vélo, si, je le fais. Le seul truc, c'est que quand je vais tôt à la manufacture, vers 4-5 heures du matin...
T'as pas envie de le faire en vélo, là?
Ce qui fait nuit, quoi.
Non, alors la nuit, je m'en fous, mais par contre, soyons réalistes, c'est pas les mêmes conditions en hiver qu'en été. Donc, voilà, on s'ajuste et voilà.
Ouais, chouette, ça.
Mais si, complètement.
Moi, je suis très vélo aussi, également. On arrive donc avec des questions plutôt... personnel, c'est les closings de notre épisode Business of Bouffe. D'abord, la première question, c'est on a évoqué l'ouverture en Belgique, mais on aime bien connaître quel est pour toi, en fait, depuis que tu as pris la direction de la Maison Poilane, les plus gros échecs. Mais nos invités, ils disent toujours, il n'y a pas d'échecs, il y a toujours des apprentissages. Donc, ton plus gros apprentissage et surtout ta plus grande fierté et réussite avec Poilane.
Bien sûr que un échec, c'est une opportunité d'apprendre. Mais quand on parlait tout à l'heure de l'expérience de la Belgique, pour moi, ça a été une expérience ultra apprenante. Mais sur le papier, c'est aussi un échec. Mmh. Et je l'assume.
Bien sûr.
Et pour moi, il n'y a pas de mal à se tromper. Il n'y a pas de mal à faire des erreurs. Par contre, l'important, c'est qu'est-ce que l'on en fait et comment est-ce qu'on se remet sur pied, comment est-ce qu'on va de l'avant et comment est-ce qu'on continue de construire.
Et comment est-ce que demain, ça t'enrichit pour aborder un deuxième projet à l'étranger de manière différente?
Bien sûr.
On n'en a pas parlé d'ailleurs, pardon, tout à l'heure, dans les 5 à 10 ans. Est-ce que tu imagines justement de reproduire cette expérience-là, mais différemment?
Oui, ça peut.
Et d'ouvrir aux États-Unis?
Ça peut, mais par exemple, c'est pas complètement un échec, mais par exemple, ça, en 96, mon père a ouvert un petit café. J'en ai ouvert un deuxième à Londres en 2011. Et le bail est arrivé à expiration juste au mois de juin l'année dernière. Et en fait, là, je me suis dit, moi, là, je sens que les conditions ne sont pas réunies pour aller de l'avant. Donc là, c'est la fermeture d'un projet, fort de toutes les expériences aussi que j'avais, de se dire, on arrête là et il faut réinventer le sujet. Ouais, oui. Pour le coup, je suis très contente d'avoir pris
dans le contexte Covid, c'était la bonne décision, certainement, en 2020. À Londres.
En l'occurrence, oui. Rentrée et l'automne m'ont encouragé dans l'idée que c'était la bonne décision.
Mais à long terme, peut-être que ça aurait été une belle opportunité.
Absolument.
Les jeunes, donc tu auras l'occasion de faire des choses comme
ça. Et pour moi, les plus belles expériences, c'est justement celles où j'ai la chance de pouvoir me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris? Comment est-ce que ça va nourrir mes réflexions pour l'avenir? Après, d'une façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus terre à terre, lorsque l'on fabrique le pain, lorsque l'on façonne une miche, lorsque l'on sent que l'on a donné son cœur, évidemment, mais cette énergie se souffle à un morceau de pain, c'est génial. Ça, c'est vraiment des expériences nourricières. Et c'est aussi pour ça que le cours en ligne avec Masterclass est aussi important à mon cœur. C'est que c'est vraiment aussi l'opportunité de donner cette expérience-là à mes clients et qu'ils fassent du pain une fois dans leur vie ou qu'ils se mettent à faire du pain chez eux. Quoi qu'il arrive, c'est génial parce qu'ils vont rentrer dans la danse de cette compréhension-là.
Donc là, on a parlé de ton plus grand échec et ta plus grande fierté, ta plus grande réussite.
Pour moi, c'est le jour où j'ai maîtrisé ce geste dans ma formation, ça a été une vraie fierté. Alors, c'est le premier qui me vient en tête, mais sincèrement...
Ça, c'est au moment de ta formation.
Il me porte encore aujourd'hui.
Quand on discute avec toi, que tu le vis, ce plaisir de ce geste et de cette matière. On en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, c'est une autre question rituelle. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui veut se lancer dans l'alimentation donc?
Non, ou dans la bouffe, ce qui veut dire la bouffe.
Je fais exprès, j'adore.
Non, mais ce qui est génial, c'est que maintenant, on a interverti les rôles.
Voilà, mais c'est comme ça.
Qu'elle a dit bouffe.
Si en partant, tu parles de bouffe, j'aurais gagné ma journée. Je surveillerai tes prochaines interviews.
Je suis pas du tout à l'aise de donner un quelconque conseil. Donc parce qu'au fond, il faut s'adapter. Et s'il y a une chose que j'ai appris avec mon métier, c'est qu'on s'adapte en permanence à notre environnement. On peut avoir une idée, une trame, des étapes en tête, mais n'empêche, il faut s'ajuster et répondre aussi à son environnement. Mmh. Et donc, pour moi, ce serait d'avoir l'ouverture de ses cinq sens à cet environnement.
Ouais.
D'être à l'écoute et d'aller plus loin que de ce que l'on voit ou de ce que l'on entend. De se poser des questions sur ce que ça veut dire, sur ce que gratter au-delà de la surface.
Mmh.
Goûter, toucher, etc.
Notre podcast, il est sur les formats longs, donc il n'y a pas les éditeurs qui arrivent jusque-là. On aime bien leur donner un petit cadeau. Et on a cette dernière question du podcast qui est les bons plans nourriture à partager. Ça peut être un livre, un podcast, une série, un film, un restaurant. Est-ce que tu as quelque chose? On aime bien les bons plans inattendus parce que on a eu beaucoup d'invités qui nous ont dit Alain Passard. Oui, bon, Alain Passard, c'est facile.
Tu lui mets la pression. Là.
Ouais, est-ce que tu as un bon plan comme ça que tu aimerais partager?
Daniel, tu habites à côté des buts de Chaumont. Oui. Le bon plan, c'est d'aller à la boulangerie, de prendre une tarte aux pommes ou de prendre deux tranches de pain en ramenant un morceau de fromage de ta crèmerie favorite, de ton charcutier, un morceau de jambon ou une terrine de ton charcutier favori. Tu l'emmènes au parc et tu te fais un coucher de soleil juste là. On arrive à une période de l'année où on va recommencer à avoir des jours longs. Franchement, c'est incroyable.
C'est super bon plan. Là, c'est juste dommage parce que les buts de Chaumont, c'est déjà blindé. Donc, en disant ça, on aura encore du monde. Mais bon, il faut partager avec les autres. C'était un énorme...
À chacun de trouver des meilleurs plans et d'autres. C'est ça, d'aller à d'autres parcs de Paris, on n'en manque pas.
Ça me va. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir.
Merci Daniel, merci Philibert de m'avoir accueilli.
Merci à toi, à très bientôt. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.